mode, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous.
Vous êtes bien sur Dicotylédonde, l'émission qui parle de plantes et de nos liens au végétal.
Yeah.
Parce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de choux pour être bien, pas besoin de vin pour être chou.
Dit cotylédon, on entend le mot de et cotylédon. Donc ce sont des plantes qui font des graines avec deux cotylédons.
Dit cotylédon, une émission d'ethnobotanique fabriquée par Clémence, Nina et leurs complices.
Dernière chose à dire, qui permet de reconnaître les dicotylédones. Les dicotylédones, elles ont des nervures qui sont ramifiées. Les fleurs, on les verra une prochaine fois parce qu'on n'a pas de fleurs pour le moment sur le framboisier.
Tous les quatrièmes mardis du mois, de 15h à 16h, sur Radio Galère 88.4. Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode de Dicotylédonde. C'est presque la rentrée, mais on n'a pas chômé pendant l'été et vous allez sûrement entendre des bribes de nos escapades estivales jusqu'à la fin de l'année. Nos enregistreurs sont partis se balader dans les Alpes et les Pyrénées à la recherche d'histoires végétales. Et en cette fin du mois d'août, on vous emmène dans le magnifique jardin de Marco, allongé sous un arbre, les oreilles grandes ouvertes pour une conférence in situ d'Alain Creton, ethnobotaniste un peu partout, mais surtout là, dans la vallée de la Roya.
Alors maintenant, il y a un autre truc qui est fondamental à comprendre. On va prendre lui, le petit là. C'est bien joli.
On y parle des sens des plantes. Les sens, en deux mots et en cinq chapitres. La vue, le toucher, l'ouïe, le goût et l'odorat. Parce que, oui, en l'écoutant, ça devient évident. Les plantes captent la lumière et y réagissent, même les fameuses plantes vertes du salon. Mais elles captent aussi les vibrations, les gaz, les nutriments et réagissent en fonction de ces informations qu'elles réceptionnent. C'est le sujet absolument passionnant de cette généreuse présentation d'Alain Creton qu'on remercie encore pour ce cadeau fait à Dicotylédonde et à ses auditeurices. C'est parti pour une heure au jardin à regarder les plantes, nous regarder.
On va parler un peu de communication végétale aujourd'hui parce que ça sera plus compliqué demain. Ça vous va? On va partir un petit peu là-dedans parce que ça va avec. Si je fais ça sur cet arbre, là, à votre avis, qu'est-ce qui se passe là pour lui?
Tu nous l'as dit un peu, il stresse.
Il stresse. Et pourquoi il stresse?
Parce que tu le touches.
Ouais,
tu lui abîmes ses...
Non, là, je l'abîme pas. Là. Regarde, je fais une jolie... Je l'abîme pas, là. Ouais. Il se dit, il pense que je vais le bouffer. Parce que les végétaux... Quand un animal commence à s'approcher d'eux, à les tripoter, en général, c'est qu'il va le becquer, quoi. Ou alors il renifle pour voir si c'est mangeable et il va passer à un autre, mais le stress, il est là. Mais quand je le touche, peut-il savoir que je le touche? Parce que moi, si je te touche, là, tu as à la surface de la peau de l'épiderme, tu as des protéines sensibles, réceptrices, qui vont réagir et qui vont augurer une modification de la chimie au niveau des cellules. Tout ça, ça va créer un différentiel électrique et un courant électrique qui va circuler le long de tes neurones, ça arrive à ton cerveau, et tu sais que je te touche. Mais lui, là, comment il le sait ? Comment il sait que je le touche ? Pourquoi il a peur ?
Il est dans le noir.
T'as vu ta tête en même temps ?
Mais en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que s'il sait que je le touche, c'est parce que lui aussi, il a des protéines réceptrices sensibles au toucher. Alors le problème, c'est que pour l'instant, au niveau du sens du toucher, on pourrait dire, on n'a pas réussi à identifier ce qui se passe. On n'a pas réussi à identifier quel était le mécanisme qui lui permet de réagir au fait que je le touche. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si je le touche, là, lui, un peu trop, au bout d'un moment, on peut voir qu'il y a un courant électrique qui part des feuilles, là, qui descend le long du pétiole, qui descend le long des rameaux, qui descend le long du tronc et qui s'en va dans les racines. Et ce courant électrique, il circule dans le xylème dont je viens de vous parler. Je vous ai dit, le xylème, c'est un tuyau dont les parois des cellules avaient disparu, donc c'est de l'eau. L'eau, c'est extrêmement conducteur. Et en fait, quand je touche cette arbre, eh ben, j'augure la création d'un courant électrique d'un très faible voltage, hein, mais qu'on sait mesurer maintenant, et qui descend et qui s'en va dans les racines. On a cette information-là. Alors pour l'instant, on va s'arrêter là, mais on sait que ça se passe, ça, au niveau d'un arbre, quand je le touche ici. Deuxième chose, c'est que si je me mets là, on va parler comme ça, lui derrière, je le nique, il est à l'ombre. Or, c'est un végétal, il a besoin de pratiquer la photosynthèse, donc il a besoin de lumière. A votre avis, qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Si je reste là très très longtemps.
Il va pousser de...
Il va pousser longtemps. Jusque-là, on est d'accord. Mais comment est-ce qu'il sait que je suis là ? Je suis là. Comment il le sait que je suis là ?
Il sait pas que tu es là, mais il voit que la lumière est à côté, à droite, à gauche.
Il voit, t'as dit, il voit que la lumière elle est à droite et à gauche.
Ouais.
Mais il voit.
Oui, j'utilise un mot qui est pas adapté, mais.
Est-ce que t'as une autre hypothèse que celle-là ?
C'est pas les chloroplastes ?
Chloroplastes, ça voit pas. Ça capte la lumière pour faire un travail.
Attiré par la lumière, il y a une force physique, une force mécanique qui est créée.
Est-ce que tu peux
une mécanique, mais je le touche pas là.
La
question c'est si je reste là longtemps. Le pied de mande qui est derrière moi, il va finir par pousser de travers pour aller chercher la lumière comme ça.
Oui.
Parce qu'il est attiré par la lumière.
Il est attiré par la lumière. Mais comment il est attiré par la lumière ?
Bah tu vas nous le dire.
Moi, si jamais, si jamais je te mets dans un couloir tout noir et j'allume une lumière, tu vas aller vers la lumière. Mais pourquoi tu vas aller vers la lumière ? Parce que tu as des yeux, là. Et dans tes yeux, tu as des bâtonnets, oui, des cônes, la rhodopsine, l'iodopsine, qui sont des protéines photoréceptrices et qui vont te permettre de recevoir des fréquences lumineuses. Et de les traiter avec ton cerveau et d'y aller. Mais lui, le pied de menthe là.
Il a aussi des protéines réceptrices à la lumière.
Voilà, il a aussi des protéines photoréceptrices. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les végétaux, tous les végétaux, dans toutes les parties vertes des végétaux, là, il y a des protéines photoréceptrices exactement comme les nôtres, qui n'ont pas les mêmes noms, elles ne sont pas faites pareilles, mais qui leur permettent de recevoir toutes les fréquences lumineuses que nous recevons nous aussi, plus l'infrarouge et l'ultraviolet. Ça veut dire que le pied de menthe qui est là, depuis qu'on est arrivé tout à l'heure, il vous voit mieux que moi, je vous vois. Et il voit tous les détails. Il voit les couleurs de ton chemisier, de ton t-shirt. Il voit très bien la barbe avec les petits poils, il n'y a pas que moi, un peu gris de Marco. Il voit très bien la fumée de la cigarette là-bas. Et le pire, c'est qu'il voit aussi l'arbre qui est là. Il voit l'horizon, il voit le ciel beaucoup plus clairement que je le vois moi.
Tu es en train d'exagérer un petit peu.
Eh bien non, parce qu'on a fait une recherche... Je vais t'expliquer la première expérience, une expérience par exemple qui a mené à ça. On a eu des présomptions d'une perception de la lumière, parce que la vue, ça n'est que ça, hein. Une perception de la lumière. La seule chose, c'est que chez nous, cette perception de la lumière, elle est conduite au cerveau. Il y a un traitement de l'information. Ouais, on construit une image rétinienne. Mais après, derrière, il y a un traitement de l'information qu'on reçoit et une réponse adaptée. Par exemple, si j'ai un autobus qui m'arrive dessus, je le vois, je fais un pas de côté. Donc voilà, il y a un traitement de l'information, une réception, un traitement de l'information, une réponse adaptée. On a fait une expérience, on a pris une petite plante, c'est un peu l'équivalent de la souris dans la recherche dans le monde animal. C'est le martyr de la recherche dans le monde végétal, ça s'appelle Arabidopsis thaliana, c'est une arabette. On a mis des arabettes qu'on a plantées en ligne, comme ça, l'une après l'autre. Chut, Luciole! Parle pas en même temps que ton. On a planté des arabettes comme ça en ligne dans un axe nord-sud. Donc comme ça, l'une derrière l'autre. Et on regarde ce qui se passe. Et là, on voit que les arabettes, elles poussent comme ça. En gros, on a l'impression qu'elles cherchent chacune à accéder à la lumière. Et en même temps, celle de devant semble aussi pousser pour laisser la lumière passer pour celle qui est derrière. On fait ça. Et puis ensuite, on enlève une arabette sur deux et on plante une plante d'une autre espèce entre les deux. Et là, on voit que les arabettes, elles poussent tout droit. Comme si elle se disait, moi j'en ai rien à branler, je te connais pas, je pousse et tu peux crever à l'ombre, si ça me dérange pas. Elles font ça. Et on s'est dit, est-ce que la rabette a conscience de la nature, de l'identité de la plante qui pousse derrière elle? C'était quand même assez curieux. Du coup, on s'est dit, peut-être que par les racines, il y a des échanges chimiques qui font qu'elles se reconnaissent. Donc on a mis les plantes dans des pots et on a recommencé. Même résultat. Après, on s'est dit, peut-être qu'il y a des échanges gazeux par l'atmosphère et qu'elles se repèrent comme ça. Donc on a mis des cloches en verre. Le résultat est toujours le même. Et à cette époque, on ne savait toujours pas que les plantes avaient des capteurs, des fréquences lumineuses. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, la seule solution, c'est qu'elles se voient. Mais non seulement elles se voient, mais ça veut dire qu'elles voient que l'autre est une image d'elle-même, tu vois, de la même espèce. Et ça veut dire que si tu es capable d'identifier l'autre, c'est-à-dire que tu te connais toi. Tu ne peux pas percevoir l'altérité si tu ne sais pas qui tu es. Et du coup, ça veut dire que non seulement, ce jour-là, on s'est rendu compte que non seulement, peut-être, elles voient, mais en plus, probablement, elles savent qui elles sont, et donc elles savent aussi qui est l'autre, qui n'est pas elle. Et donc, cette expérience qui a été menée à un moment donné, a permis d'en engendrer un tas d'autres, et on a comme ça, bon, je vous passe les différentes expériences, mais on a pu comme ça, petit à petit, découvrir ça, et aujourd'hui, si tu as un microscope et que tu regardes, toutes les parties vertes de tous les végétaux que vous avez autour, Arabidopsis thaliana, là, dont je vous parle, l'arabette par exemple, elle a 11 protéines photoréceptrices. Nous, on en a 5. Et dans ces 11-là, on a même une en commun avec elle, ça s'appelle des cryptochromes. Et nous, le cryptochrome, c'est ce qui règle nos cycles circadiens. C'est une protéine qui arrive à mesurer, elle mesure, si vous voulez, la durée de la nuit. Et donc, en fonction de la durée de la nuit, c'est une sorte de pendule. Elle va savoir qu'il est midi, que j'ai faim, que c'est le soir, qu'il faut que je me couche. Si je vais prendre l'avion pour les États-Unis, j'aurai sommeil à midi parce que mon cryptochrome, il n'aura pas eu le temps de remettre les pendules à l'heure, si je peux dire. Les végétaux ont aussi un cryptochrome, exactement la même protéine que nous, qui date de l'époque où le monde animal et végétal n'étaient pas encore séparés. C'est les premières bactéries qui recherchaient la chaleur. Ce cryptochrome cherchait la lumière parce que c'était source de chaleur à l'époque. Il n'y avait pas encore la photosynthèse. Mais ce cryptochrome, on l'a gardé en commun, on a le même. Ce qui règle le cycle circadien d'une plante, c'est la même protéine que nous. Mais en plus, l'Arabidopsis, elle en a 10. Si vous regardez au microscope, maintenant, on peut les identifier. Comment 11 au total, si j'enlève le cryptochrome. 11 au total. Mais ces protéines, aujourd'hui, ce n'est pas du tout un discours ésotérique. On peut les observer au microscope. Toutes les parties vertes des plantes sont équipées de récepteurs de la lumière, exactement comme nos yeux, comme aujourd'hui nous. Et on sait qu'elles ont une vision, donc, et j'exagère pas, beaucoup plus fine que la nôtre, dans la mesure où elles perçoivent aussi les ultraviolets et les infrarouges. Donc un spectre de la lumière beaucoup plus important que nous, donc plus de profondeur de champ, plus de contraste, plus de précision dans le détail. Thank you.
Voir, c'était un mot qui dit voir, dit. Enfin, c'est l'image. Quoi. Là, c'est plus une captation. Mais,
oui. Alors, on va continuer. Là, si je prends ce petit arbre-là, je le mets dans le noir total. Et puis, je vais isoler une feuille et je vais éclairer cette feuille, un tout petit peu là. Ben, tu sais ce qui se passe ? Il y a un courant électrique qui est émis là, qui part le long du pétiole, qui descend le long du xylème et qui part dans les racines, exactement comme je le touche. Donc ça veut dire que cette information-là, ce stimuli qui est la lumière, il va engendrer une réaction cellulaire au niveau de la feuille, et que cette réaction cellulaire elle va engendrer un courant électrique, et ce courant électrique il va circuler le long du xylème et qui s'en va dans le système racinaire. Exactement comme moi, si j'allume la lumière la nuit, toi, eh ben tes yeux, tes protéines, là, elles vont enregistrer cette information, elles vont l'envoyer à ton cerveau en disant il y a quelqu'un qui a allumé une lumière. Alors toi, pour l'instant, il y a une reconstruction d'une image, mais finalement on s'en fout, on ne sait pas, elle, il n'y a pas de rétine pour l'instant, il n'y a pas de cerveau non plus, mais il y a quand même une information qui s'en va, et surtout, il y a une réponse adaptée à l'événement qui vient de se produire. Donc il y a un traitement de cette information quelque part. Il y a une intelligence dans son comportement suite au stimuli et à l'information. Il y a par exemple, vous savez, au mois de novembre à la Toussaint, on met des chrysanthèmes dans les cimetières. Tu crois que les chrysanthèmes, elles ont envie de fleurir le jour de la Toussaint, toi ? Elles fleurissent quand elles veulent, les chrysanthèmes, tu vois. Et en fait, on a découvert qu'on pouvait modifier le comportement. Alors ça, on le sait depuis bien longtemps, mais on ne savait pas que c'était grâce au cryptochrome. En fait, les végétaux, si on les foutait dans une serre artificiellement éclairée, en allumant ou en éteignant la lumière le jour ou la nuit, on artificialise la durée de la nuit, et chaque plante, elle va fleurir à un certain moment de l'année en fonction de la durée de la nuit. Et donc comme ça, en artificialisant la durée de la nuit, eh ben, on peut contraindre une fleur, une plante, à fleurir quand nous, on le veut. Et c'est comme ça qu'on a des chrysanthèmes à la Toussaint, par exemple. Et ça, c'est dû aux cryptochromes qui vont recevoir et qui vont calculer. Et beaucoup, maintenant, on sait, alors on cherche, hein, c'est assez récent, on va dire, ces découvertes-là, mais on sait que chaque récepteur protéinique de la lumière dans les végétaux, il a une fonction particulière, qui va être, par exemple, de déclencher le rougeoiement des feuilles. Une plante, comme je viens de vous le dire pour le boulot, elle a besoin d'avoir des réserves au printemps pour le débourrage, puisqu'il faut bien charger les batteries pour qu'elles soient pleines au printemps. Et donc la plante, elle va rétracter la sève qu'il y a dans les feuilles pour deux raisons. D'abord parce que c'est de l'eau, si ça gèle, l'eau ça dilate et donc ça ferait éclater les vaisseaux. Et surtout pour récupérer les sucres et les stocker en prévision du printemps d'après. Mais ce déclenchement-là, il est entre autres, alors il y a des correcteurs, hein, il n'y a pas que la vue comme sens, il y en a d'autres, mais en tout cas, ces récepteurs lumineux, certains vont être responsables de ça. D'autres, ils sont responsables de ce qu'on appelle le phototropisme. Donc c'est ce qui fait que la menthe, elle va pousser vers la lumière, par exemple. Alors eux, ils sont dans les bourgeons terminaux, là, par exemple. Mais toutes les parties vertes voient, elles voient mieux que nous, et plus précisément, et beaucoup plus en détail. Voilà, une petite information. Ça va, je ne vous casse pas les oreilles, c'est bien. Un deuxième truc, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais on en parle souvent, on en a déjà un petit peu parlé, mais de ce qu'on appelle l'audition chez nous. Il y a une expérience qui a été menée en 68 par une femme qui était musicienne. Elle a diffusé du Led Zeppelin à des plantes et du Mozart à d'autres plantes. Et elle a conclu que les plantes n'aimaient pas Led Zeppelin, mais qu'elles aimaient bien Mozart. Et que si on enlevait la batterie de Led Zeppelin, ça allait mieux, elle poussait pas trop mal. En fait, c'est des conneries, cette expérience ne fonctionne pas. Et c'est très drôle parce qu'elle a été remenée, je sais plus la date, je crois que c'est en 2014, par un labo américain, parce que cette idée continue à circuler dans les médias et tout ça. Et là, ils ont fait une expérience en grandeur énorme. Ils ont mis deux serres, dont une ont diffusé, alors c'était plus Led Zeppelin, je sais plus ce que c'était, un groupe de métal. Et je crois que c'est du Chopin, le classique, quoi. Et là, au grand dam des chercheurs, les plantes qui écoutent du Chopin poussent mieux que celles qui écoutent du métal, tu vois. Les mecs étaient désespérés en se disant, putain, mais est-ce qu'on se trompe depuis 50 ans? Et elle avait raison, tu vois. Et ils arrivent pas, ils réitèrent l'expérience, même résultat. Et du coup, les mecs se disent, putain, merde. Et en fait, c'est rigolo, c'est un ethnobotaniste qui a trouvé la réponse. Ils ont fait appel à d'autres chercheurs et ils se sont rendus compte que, comme c'était disposé, si tu veux, les deux serres se faisaient face et il y avait des enceintes comme ça au milieu, comme ça. Et il y avait en fait un courant d'air, un vent, en général ça circule toujours dans le même sens, un petit courant d'air qui circulait comme ça. Et donc il y a une serre, tu avais la serre et les enceintes, et l'autre, tu avais les enceintes et après la serre. Ben, comme le courant d'air il allait comme ça, la chaleur qui était dégagée par les enceintes, ça réchauffait un petit peu plus la serre que l'autre, et c'est pour ça que ça poussait. On a mis l'enceinte de l'autre côté, elles n'en ont rien à foutre d'écouter de la musique. C'est une vision complètement anthropocentrée, ça. Mozart ou Led Zeppelin, elles n'en ont rien à branler. Alors, après maintes expériences, maintenant, on sait que les basses et les méga-basses semblent plutôt aider les plantes. Elles semblent apprécier, on va dire. Tout ce qui est aigu, elles ne supportent pas.
La vibration, en fait.
Ouais, elles ont visiblement, je vais vous expliquer pourquoi, si vous voulez, maintenant, elles ont la capacité de percevoir les ondes sonores. Maintenant, on en est sûr, au niveau aérien et au niveau souterrain. Mais pas la musique. La musique, elle s'en fout. La musique, c'est à nous que ça parle, pas à elle. Quoi. Voilà. Par contre, ce qui leur parle, et on a découvert... Alors, c'est une dame, moi, je l'adore. Elle est chercheuse en Nouvelle-Zélande. Elle a une imagination de fou pour vérifier des infos comme ça. Et elle a fait un truc, c'est... Vous savez ce que c'est, toi, tu sais, mais le... Comment ça s'appelle, le petit papillon qui bouffe les choux, là? La pyride du chou. Et la pyride du chou, c'est une chenille qui bouffe les feuilles de chou, mais pas seulement, de brassicacées, et qui fait un petit papillon. Et l'Arabidopsis thaliana, dont je parlais tout à l'heure, la souris végétale, c'est une brassicacée. Et du coup, cette dame, elle s'appelle Galliano, Madame Galliano, Gagliano, ça s'écrit, elle a enregistré le son des mâchoires de chenille qui bouffent des feuilles d'Arabidopsis thaliana. Et quand une plante est agressée physiquement, quand on la mange comme ça, elle réagit en produisant, en balançant des tanins dans sa sève. Et les tanins, ça donne de l'amertume, de l'astringence, c'est pas agréable. Donc c'est une façon de devenir moins appétante et de se protéger. Donc on peut voir, quand une plante est agressée, elle réagit. Donc c'est pratique pour un cadre expérimental, parce qu'on peut vérifier. Et du coup, on enregistre le son des mâchoires de la chenille qui bouffe la feuille, et après, on diffuse ce son sur une plante où il n'y a pas de chenille. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? La plante, elle réagit comme si elle était agressée. Elle balance des tanins. Donc, à l'évidence, on pourrait dire qu'elle entend, entre guillemets, parce qu'elle n'a pas d'oreille, mais elle perçoit les ondes sonores. Et non seulement, encore une fois, elle les perçoit, mais elle les interprète d'une façon cohérente, puisqu'elle comprend qu'il y a un danger et qu'elle réagit d'une façon correcte par rapport à ce danger. Donc là encore, on se rend compte qu'il y a un stimuli, un transport de l'information quelque part, un traitement intelligent et une réponse adaptée. Donc une forme, ce qu'on pourrait appeler une intelligence comportementale, en tout cas déjà au départ. On a fait la même expérience au niveau racinaire. On plante des graines, on sème des graines dans un pot à deux tubes, comme ça. Un pot de fleurs avec deux tubes. Et d'un côté, il y a de l'eau qui circule et de l'autre, pas d'eau. Donc là, j'imagine que vous devinez ce qui se passe.
Il y a un côté qui pousse et l'autre pas.
Voilà. Sauf que pas tout à fait. Il y a à peu près 80% du système racinaire qui va vers où il y a de l'eau et 20% qui va de l'autre côté. Vous me dites quand je vous gave.
Non,
c'est moi quand je parle là-dedans. Et du coup, ça se développe de 80% d'un côté. Jusque-là, rien que de très normal, si ce n'est que l'eau, elle est quand même 60 cm sous les racines. Donc la plante, elle a quand même perçu la présence de l'eau à distance. Mais après, on fait passer l'eau, au début, on fait passer dans un tuyau d'arrosage, l'eau. Donc elle n'est pas accessible. Elle circule, c'est tout. Et on remet les graines, on fait germer, on regarde ce qui se passe, et à nouveau, 80% des racines vers le tuyau, alors qu'il n'y a pas d'eau. Et du coup, les chercheurs se sont dit, merde, comment elle sait qu'il y a de l'eau, là, puisque elle n'est pas palpable, tu vois. Il n'y a pas d'évaporation, il n'y a rien, c'est fermé. Donc après, ils se sont dit, il y a peut-être une perception du champ magnétique de l'eau par le système racinaire. Donc finalement, ils l'ont fait passer dans un tuyau opaque, en plomb, donc il casse les champs magnétiques. Donc il n'y a aucune possibilité de percevoir ni les champs magnétiques, ni la présence de l'eau directe. Eh bien, il se passe exactement la même chose. 80% des racines partent de ce côté. Et la seule hypothèse qui reste à la fin, c'est qu'elle est capable d'interpréter le bruit de l'eau qui coule. La vibration que produit le défilement de l'eau, elle la perçoit d'une manière ou d'une autre, cette onde, et elle est capable de l'interpréter et donc d'avoir à nouveau un comportement adapté.
C'est une déduction.
Et c'est très drôle parce que finalement, ça rejoint un truc qu'on a constaté depuis fort longtemps, c'est que dans les villes, les canalisations souterraines qui transportent l'eau dans les villes, quand il y a un problème et qu'ils vont travailler dessus, tu as les racines des arbres qui sont plantées là dans le long des trottoirs, tout qui viennent s'enrouler autour de ces canalisations où il n'y a pas d'eau. Alors des fois, il y a des fuites, mais des fois, c'est complètement sec. Et ils sont obligés de tronçonner des grosses racines qui sont autour de ces tuyauteries. Au risque de... Enfin, c'est assez... C'est du métal, quand même, tu vois. Et on s'est toujours demandé pourquoi elles vont s'enrouler autour de ça. Alors peut-être parce qu'il y a un peu de fraîcheur, mais les racines ne cherchent pas spécifiquement la fraîcheur. Et très probablement pour les mêmes raisons. Parce qu'elles perçoivent la vibration due à la circulation de l'eau et qu'elles la connaissent, on pourrait dire ça comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on a, puis il y a d'autres éléments, il y a eu d'autres expériences menées, notamment avec le bruit des ailes des abeilles, qui augurent des modifications dans le comportement des plantes. Donc il semblerait qu'elles soient sensibles aussi à la vibration des ailes, des abeilles, mais des insectes butineurs, et ça puisse augurer des comportements de la fleur qui soient différents dès que l'insecte arrive. Par exemple, des systèmes de protection du pollen qui d'un coup s'ouvrent quand l'insecte butineur arrive alors qu'il n'y a pas aucun autre élément que le bruit, que la vibration sonore. Alors le problème pour l'instant, c'est que là aussi, on n'a aucune idée d'où se passe la réception. On n'a pas pu identifier d'organes de réception. On ne sait pas comment ça se passe. Ce qu'on sait, c'est que ça se passe. Bon, il y a d'autres expériences ou histoires, mais... Donc si on réfléchit un peu, aujourd'hui, ce qu'on sait, d'une façon pratiquement indiscutable, c'est qu'elles savent qui elles sont. Elles savent reconnaître que l'autre n'est pas elle-même. Elles sont capables de traiter des informations d'une façon intelligente et cohérente. Elles ont une réception des fréquences lumineuses beaucoup plus pertinente que la nôtre, de quelque chose qu'on pourrait appeler une vision. Elles ont une capacité de réception des ondes sonores. On sait déjà tous, elles ont une sensibilité au toucher et une réaction au toucher. Et vous voulez qu'on parle de quoi d'autre ? Nous, on a d'autres sens. Hein. On a déjà traité l'ouïe, la vision, le toucher, le goût et l'odorat. On voulait qu'on parle du goût et de l'odorat ? On pourrait dire d'une certaine façon que, contrairement à nous, que les plantes, elles sentent avec les parties aériennes et elles goûtent avec les racines. On pourrait dire les choses comme ça. Alors ça, on le sait depuis fort longtemps parce que une des premières fois où on a compris qu'il se passait quelque chose de particulier, c'est assez drôle, c'est en Virginie, c'était dans les années 50-60 là. On cultivait du tabac. C'est la grande époque du tabagisme. On cultivait du tabac. Et on a trouvé un tabac qui s'appelle le géant de je ne sais plus quoi. Un tabac, les pieds de tabac, ils font 3 mètres de haut, immense. Donc génial, les producteurs de tabac, ils trouvent un tabac géant. Et là, ils commencent à cultiver ce tabac et ils ont eu un gros problème, c'est que ce putain de tabac, il ne fleurissait pas. Et ils n'arrivaient pas à le faire fleurir et ils ne comprenaient pas pourquoi. Donc c'était un peu un problème. Il y avait quelques pieds de tabac qui fleurissaient, mais très peu. Et donc on avait un problème pour rendre.
C'est quoi le problème ? C'est les feuilles qui sont.
Mais s'il ne fleurit pas, il ne fait pas de graines et on n'a plus de semences. D'accord. pour le reproduire. Et on n'y arrivait pas. Et du coup, on se met à cultiver ce tabac sous serre. Et sous serre, ce tabac, les serres étaient. Parce que comme il fleurit très tard, il faisait trop froid, les pieds pouvaient mourir, etc. Donc on les met sous serre. Et ces serres, on les chauffe avec des fours qui marchaient, avec des poêles qui marchaient au kérosène. Et là, aux merveilles, à l'automne, quand il commence à faire froid, on allume les chauffages au kérosène, et puis tous les pieds de tabac se mettent à fleurir. Génial, on a trouvé la réponse, tout va bien. Et puis les progrès arrivant, un jour, on remplace le chauffage au kérosène avec du chauffage électrique. On chauffe tout ça, et là, il n'y a plus un pied de tabac qui fleurit. Les mecs, ils ne comprennent pas. On réfléchit, on ne trouve pas la réponse. On remet du chauffage au kérosène, tous les pieds de tabac fleurissent. Et là, on a découvert que dans la combustion du kérosène, il s'est mis un gaz qui s'appelle de l'éthylène. Et quand tu balances de l'éthylène sur une fleur, sur une plante, c'est comme si tu lui disais « faut fleurir maintenant, là, ces temps-là ». En fait, c'est un message chimique qui correspond à un langage. Les végétaux, quand ils reçoivent de l'éthylène, c'est comme si tu leur disais « faut fleurir maintenant ». Faut mûrir aussi. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais un cerisier, quand il y a une cerise qui mûrit, c'est tout l'arbre qui mûrit, toutes les cerises. Ce qui n'est pas très logique, parce qu'en fait, il y a une partie qui est au nord, une partie qui est au sud, il pourrait y avoir un décalage. Il n'y a pas de décalage. Tout fleurit en même temps. Et pourquoi ? Parce que la première cerise qui mûrit, elle dégage de l'éthylène. Et l'éthylène, il va toucher toutes les autres cerises autour, et puis tout l'arbre. Et puis à la fin, si vous avez... Alors chez moi, c'est très typique. Dans le vallon, il y a des merisiers, et donc il y a des courants d'air. Et quand il y a un merisier qui fleurit et ou qui mûrit, ils mûrissent tous dans le vallon. Et si tu as un arbre qui est décalé de 100 mètres sur la pente plus haut, bah lui, il peut carrément mûrir avec 10 jours d'écart, en fait, parce qu'il ne reçoit pas l'éthylène. Et donc, on pourrait dire que les plantes se parlent, s'envoient des messages par des voies gazeuses, et donc par quelque chose qui s'apparente à ce que nous, on appelle l'odorat, en fait. Là aussi, maintenant, on sait l'identifier, il y a des protéines, c'est toujours des protéines. Une protéine, c'est comme une serrure. Si tu as la bonne clé, la protéine, elle s'active. Là, la protéine, elle est sensible à une molécule, c'est l'éthylène. À partir du moment où il y a de l'éthylène, la molécule, la clé rentre dans la serrure, pouf, ça active un récepteur. Quand la serrure est activée, eh ben, à nouveau, émission d'un courant électrique qui redescend dans les racines. C'est une constante dès qu'il y a un stimuli comme ça. Et les fleurs, c'est pareil. La floraison, c'est exactement le même mécanisme. Et ça a du sens, parce qu'en fait, si tu es un arbre, un merisier avec 4 cerises mûres et pas d'autres, tu n'es pas très attractif pour les oiseaux. Et les oiseaux sont indispensables, parce qu'en bouffant les cerises, ils dispersent les graines. Donc, mûrir tous ensemble, tu es un phare, quoi. Tu vois, et donc, les oiseaux vont venir plus facilement. Donc, c'est aussi, ça a du sens, cette capacité-là. Du coup, quand on parle d'odorat chez les végétaux, l'odorat, ce qu'on appelle, nous, l'odorat, dans la perception des molécules gazeuses, enfin, chez les végétaux, c'est un langage. C'est comme nous, la voix. Ça s'apparente à un langage. Alors, par exemple, je vous ai parlé d'éthylène, mais il y a un autre truc. Si, par exemple, là, ce que je fais, là, je lui fais ça à la menthe, là. Je la déchire, et je la bouffe. À partir du moment où un animal vient agresser physiquement une plante, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle va produire des tanins. Ouais. Mais je lui fais aussi une blessure, là. Et c'est dangereux, parce que je risque de bouffer toutes les autres plantes autour. Donc il faut vite qu'elles réagissent. Donc celle-ci, elle va balancer des tanins pour devenir moins appétante, mais celles qui sont autour, là, elles ne savent pas que je suis là et que je vais arriver. Et les feuilles, surtout, par exemple, alors là, c'est une petite plante, mais si je suis un arbre et qu'il y a des animaux qui viennent me brouter d'un côté, si je pouvais prévenir les feuilles qui sont de l'autre côté, qu'il y a un danger, je gagne de la survie en les prévenant. Ben, c'est exactement ce qui se passe. En fait, si vous commencez à brouter ou à déchirer une feuille sur un végétal, il va émettre une molécule gazeuse qui s'appelle du jasmonate de méthyle. Le jasmonate de méthyle, il est émis. Et toutes les feuilles qui sont autour, elles reçoivent un message très clair, c'est « Faites gaffe les filles, il y a un mec qui vient nous brouter. » Et à ce moment-là, toutes les feuilles qui sont autour, elles vont se mettre à balancer des tanins à bloc, à saturer de tanins, pour éviter d'être mangées. Et aujourd'hui, on sait que c'est entre autres pour ça que les animaux brouteurs, les brebis, ils se déplacent tout le temps. Quand vous avez un troupeau de moutons qui arrive dans un pré, nous, on ne s'en rend pas compte, mais eux, ils mangent que ça. Hein. Donc, ils sentent la différence très clairement. Et donc, ils ne mangent jamais longtemps au même endroit. Ils se déplacent tout le temps. Parce que les végétaux qu'il y a autour, ils réagissent tous. Et l'herbe devient moins appétante. Donc, ils vont plus loin, sans arrêt. Et ils se déplacent tout le temps pour ça, pour manger des plantes nouvelles. Alors, on a découvert...
C'est trop chiant de garder des brebis.
Et ça, on l'a découvert en Afrique du Sud, ça aussi dans les années 60, avec les koudous qui allaient manger des acacias et qui sont morts alors qu'ils avaient le ventre plein. Parce qu'en fait, il y a eu une sécheresse, tout le monde s'est inquiété. On s'est dit, oh putain, elle était annoncée. Et en fait, le parc Kruger, qui est le plus grand parc d'Afrique du Sud, il avait une population de koudous, enfin de gazelles, on va dire, d'antilopes plutôt, très importante. Et on s'est dit, putain, est-ce qu'il y aura assez à manger? Tout le monde était inquiet. Et à côté, il y avait des réserves où il y avait une population un peu plus faible, a priori plus petite en surface, hein, suffisamment d'arbres pour nourrir les koudous. Alors ils se sont dit, non, les pépères. D'ailleurs, il y en a même qui ont fait des grillages à cette époque-là. Et en fait, au bout d'un moment, la population de koudous du Kruger a absolument pas, il y avait eu très peu de mortalité. Elles ont souffert, les bêtes, elles ont jeûné, mais elles ont tenu. Alors que dans les réserves où il y avait assez à manger, on a trouvé des populations entières de koudous mortes, avec un ventre tout gonflé. Parce qu'en fait, quand il y a peu de surface, eh ben, elles se sont précipitées là où il y en avait, elles ont bouffé que là. Les arbres, ils ont saturé les feuilles de tanins, et les tanins, ça bloque la digestion, et ils sont morts, empoisonnés par des tanins, alors qu'il y avait, a priori, assez de bouffe, mais sur une surface trop restreinte.
C'est le tanin essentiellement le
molécule
de défense.
Ouais, ouais, ouais. Par rapport aux animaux. Alors tu vois, on connaît l'éthylène, on peut parler arbre. Tu prends de l'éthylène, tu fais pipite, ça veut dire faut mûrir, faut fleurir. Tu prends du jasmonate de méthyle, tu fais pipite, ça veut dire fais gaffe, je vais te bouffer. Et on connaît aujourd'hui une troisième phrase qui veut dire, qui sert à alerter contre les attaques bactériennes ou virales. Alors, par exemple, si je balance là des bactéries qui attaquent la plante, toutes les plantes contiennent de l'acide salicylique. On en a parlé avec le sol, là, vous savez. Une substance antibactérienne. Si jamais je pose une bactérie là, enfin, on dépose un nid de bactéries sur une feuille et une attaque bactérienne, aussi sec, elle va faire deux choses. Elle va balancer une concentration d'acide salicylique dans la partie attaquée, comme exactement nous, on va prendre de l'aspirine, comme antibactérien. Et en même temps, elle va transformer l'acide salicylique en salicylate de méthyle, qui encore une fois est gazeuse. Le groupement méthyle, ça rend souvent une propriété, c'est une propriété gazeuse. Et donc ce salicylate de méthyle, il va être émis. Et toutes les feuilles qui sont autour, elles vont percevoir ce salicylate de méthyle, qui veut dire faites gaffe, il y a une attaque bactérienne. Et non seulement elles vont récupérer ce salicylate de méthyle et le retransformer directement en acide salicylique, c'est comme si on voit le message et le médoc en même temps. Et en même temps, elles vont elles-mêmes émettre de l'acide salicylique pour leur propre défense. Et on va voir que toutes les feuilles et les plantes autour vont avoir une réaction similaire.
Donc, alors, autour, c'est quoi le périmètre ?
Ben, ça dépend du vent, ça dépend de la quantité de gaz qui est émise, évidemment. Le problème, alors, juste pour dire un tout petit truc, aujourd'hui, il y a des livres comme par exemple La vie secrète des arbres, là, qui est très connu, où il dit les arbres se soutiennent entre eux, ils sont sympas, ils préviennent les autres. On ne peut pas dire ça. Ce qu'on sait, c'est que si j'attaque une feuille, il y a une émission d'un gaz. Alors, est-ce que ce gaz, il est émis pour prévenir les autres feuilles de la plante ? Est-ce que la plante, là, elle est consciente qu'en émettant ce gaz, elle prévient aussi d'autres plantes ? On n'en sait foutrement rien. Donc, cette idée d'une coopération, elle est complètement anthropisée. On ne sait pas du tout. Quelle conscience ils ont d'aider ou pas un autre ? C'est une vue de l'esprit, ça. Pour l'instant, en tout cas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que... Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que ce langage chimique dont on connaît les trois phrases aujourd'hui, il est immensément riche. Si on met des capteurs chimiques aux alentours du houppier d'un arbre, on capte des centaines de molécules gazeuses dont la plupart, on n'est même pas capable de les isoler. Hein. Mais il y en a plein. Donc, en fait, il y a un langage permanent chimique, donc on pourrait dire odorant, c'est l'odorat, on pourrait dire ça, entre les végétaux. Donc il y a énormément d'informations qui sont échangées comme ça. Mais aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est de pouvoir les isoler. Et non seulement de les isoler, mais de mesurer cette molécule-là, qu'est-ce qu'elle augure comme changement chez l'autre. Est-ce qu'il la perçoit ? Est-ce qu'il la reçoit ? Et pour ça, il faudrait qu'on mesure un changement de comportement dès lors qu'il reçoit cette information-là. Donc c'est très compliqué à mettre en place sur un plan expérimental. Donc pour l'instant, on est au balbutiement, on va dire. Mais on sait que les plantes, exactement comme nous, sont sensibles à des molécules chimiques gazeuses, donc à ce que nous, on appelle de l'odorat, et que ça leur sert à communiquer sur le plan aérien. Regarde une forêt comme ça. Tu vas dans une forêt, tu as très peu d'individus végétaux malades. Il y a des bactéries, il y a des champignons, il y a des insectes, tout ce que tu veux. Donc il y a des feuilles qui sont mangées, il y a des choses comme ça. Mais ils ne meurent pas, ils sont pas blessés. Ils vivent tous très bien, la plupart. Si vous voulez, on peut parler... Ça va, vous n'en avez pas marre ?
Pas du tout.
Il y a un autre truc dont on peut parler au niveau de... Tu disais le goût et l'odorat. Au niveau du goût, je vous disais, on pourrait considérer que les plantes, elles goûtent par leur système racinaire. Mais là, on a exactement le même mécanisme qu'en surface, sauf que c'est beaucoup plus compliqué à étudier, quoi. Et du coup, là, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Mais on peut constater des choses qui sont assez rigolotes. C'est que... on a... Comment dire ? Attends, que je ne parte pas d'une façon trop incohérente. On peut faire une petite comparaison, si vous voulez. Moi, si je vais à Nice, chez Arlequin, c'est un glacier que j'adore, je ne me demande pas, quand j'arrive chez Arlequin, si j'ai besoin de sucre ou pas. Je peux prendre 8 boules de glace et je me les bouffe, quoi. Voilà. Mais tout ce que j'absorbe, moi, ça va descendre. Et au niveau de l'intestin, mon intestin, il va normalement réguler... ce qui va passer à l'intérieur, dans mon système intérieur, ce que j'ai besoin, puis le reste, c'est rejeté par les selles, normalement, quand tout va bien. Mon intestin, c'est lui qui fait filtre. Chez les végétaux, je vous ai dit tout à l'heure, on a des racines, donc on a la tige, si vous voulez, de la racine, la structure dedans, Et dedans, il y a un tube qui s'appelle l'endoderme. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Oui.
Et bien, à l'extérieur de l'endoderme, on a des cellules. Et puis, on a des petits... des radicelles qui en partent comme ça. Ben, les radicelles, c'est un peu notre bouche. Elles sont dans le sol et c'est comme moi devant un glacier. Tout ce qui se bouffe, elles le prennent. Ces radicelles, ils sont équipés de millions de protéines, chacune étant adaptée, par exemple, au phosphore, à l'azote, à n'importe quoi, un truc bon à manger. Et les radicelles, elles bouffent exactement comme moi chez Harlequin, elles prennent tout ce qui passe, elles stockent. Et après, l'endoderme, c'est mon intestin, lui, il trie. Et les parois de l'endoderme, elles ne vont laisser rentrer, alors ce n'est pas une volonté, c'est simplement les principes de l'osmose, encore une fois, ou des mécanismes chimiques complexes qui vont faire que ne va rentrer dans le milieu intérieur de la plante, ou sortir d'ailleurs, que ce qui est nécessaire. Et donc c'est au niveau de l'endoderme que le tri se fait. Mais les racines, elles goûtent le sol en permanence, comme ça. Elles le goûtent en permanence. Alors ce qu'il y a de très étrange, c'est que si par exemple, tu vois cet arbre-là, mettons que son système racinaire, il aille à peu près jusqu'ici, s'il y a une ressource de potasse là-bas, eh bien on va voir que le système racinaire, il va s'orienter comme ça, vers la ressource, d'une façon très volontaire, comme ça. Donc il a perçu la présence de la potasse là-bas. Et jusqu'il n'y a pas encore très longtemps, on ne savait pas comment ça se passe. Pourquoi il va se diriger par là ou ailleurs alors qu'il est trop loin normalement pour le sentir. C'est ouais, en partie ces systèmes-là. Mais aussi à cause des phénomènes justement d'osmose. Parce que aspirant l'eau, il va y avoir dans l'eau qui est aspirée des substances en solution. Qui lui permettent de venir. Donc, pour faire simple, on peut dire ça, les racines, elles goûtent, et les feuilles, elles sentent. Et quand elles sentent, elles parlent. Voilà. Pour l'odorat et le goût.
Merci.
Juste pour vous dire un petit truc, enfin plusieurs briques. Ça va, je peux encore un quart d'heure, 20 minutes. Juste un truc, je vous disais tout à l'heure, quand je touche une plante, elle pense que je vais la bouffer, donc elle n'aime pas ça. Il faut tempérer cette information avec... Alors là, pour le coup, c'est pas un truc que j'ai lu, qui a été fourni par des chercheurs, c'était juste une réflexion que je me suis fait. Depuis Charles Darwin, père... On a découvert un truc, non, c'est pas lui, c'est Lamarck. C'est un grand botaniste qui s'appelle Lamarck. Lamarck, il travaillait sur une plante qui s'appelle Mimosa pudica. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un mimosa, et quand on touche les feuilles, elles se ferment très rapidement comme ça. Il étudiait le mécanisme de fermeture et d'ouverture. Et il a déménagé. Et donc, à l'époque, à Paris, il y avait des rues pavées, et on se déplaçait en carriole avec des chevaux. Et il dit à son assistant, tu me prends tous les pots de Mimosa pudica, tu fous tout ça dans la charrette, tu l'amènes au nouveau labo. Donc là, tu fous tout ça, puis il roule. Et sous l'effet des vibrations, le Mimosa pudica, puisque c'est son fonctionnement, les feuilles se ferment. Puis quand il y a un bouchon, parce que c'était un peu le bordel, la circulation à l'époque, au bout d'un moment, elle s'ouvre. Et puis dès qu'il la mange, elle se ferme. Et puis l'assistant, il rentre, il dit à Lamarck, il y a un truc bizarre. Au début, ça faisait ça, et puis au bout d'un moment, ça ne le faisait plus. Et c'est bizarre. Et du coup, Lamarck, il lui dit... Bah, c'est probablement la source d'énergie qui permet d'alimenter, d'actionner le mécanisme qui est épuisé. Et puis quand même, ça l'intrigue et il se dit, tiens, on va faire une expérience, on va voir. Donc ils prennent des pots de Mimosa pudica, ils les mettent à 30 cm de haut, puis ils les lâchent comme ça. Et à chaque fois que ça tombe, pouf, les feuilles se ferment. Puis au bout d'un moment, après X répétitions, il lâche les pots, puis ça ne se ferme plus. Donc là, ils vérifient, ils prennent un stylo, ils touchent les feuilles, elles se ferment. Donc ce n'est pas un problème d'alimentation de la source d'énergie, il y a autre chose. Et en fait, il a découvert, et alors ce qu'il y a de fou, c'est que cette découverte-là, à l'époque, on l'aurait brûlée. Hein. S'il s'était battu, elle est passée complètement à la trappe. La plante, en fait, elle a appris. Elle a appris que cet événement-là, il n'est pas dangereux. Il faut que j'arrête de gaspiller mon énergie à me fermer, à m'ouvrir. Il n'y a pas de risque, tout va bien. Tu vois. Donc la plante, elle a arrêté de réagir bêtement, en fait. Et donc, encore une fois, elle a enregistré une information, elle l'a traitée et elle a réagi de manière intelligente. Mais le pire de tout ça, c'est qu'il a laissé les pots au repos. Alors, il avait un esprit très scientifique quand même, la marque. Donc, il a laissé un certain temps. Certains pots, il a réessayé une semaine après. Elle ne se fermait toujours pas. Et il s'est rendu compte qu'il y avait une mémorisation de l'événement qui a été jusqu'à 2 mois. Au bout de 2 mois, tous les pots réagissaient comme si l'événement ne s'était jamais passé. Mais il a quand même prouvé, en 1860, que les plantes avaient de la mémoire. Alors, une mémoire à moyen terme, on va dire, certes, ouais, et une mémoire événementielle, alors c'est une des formes de mémoire, mais quand même une mémoire.
C'est la pimprenelle, elle a le même...
Tous les végétaux ont une mémoire, enfin tout, non, on ne peut pas dire ça, mais tous les végétaux qui ont été testés ont une mémoire à, on va dire, moyen terme, si on peut appeler ça du moyen terme.
C'est pas mal de...
Ouais, déjà. Et alors du coup, imagine que j'ai une plante en pot chez moi qui pousse, un géranium par exemple, et tous les matins, je touche la même feuille, en appuyant de la même façon, ouais, en lui disant des mots d'amour. Ouais. La première fois, on va dire, il veut me bouffer ce con, elle balance des tanins. Ouais. Mais si je recommence tous les jours ou toutes les 2 heures, au bout d'un moment, elle va comprendre que ce n'est pas dangereux. Et en fait, tous les êtres vivants, une fois qu'on a enlevé nos protections, on se laisse aller ça veut dire qu'il y a une réception là, ouais, une capacité de réception, de perception plutôt. Mais si cette perception n'est plus considérée comme dangereuse, à ce moment-là, on est dans l'échange. Et donc, on pourrait considérer que sur le plan du toucher, on pourrait apprivoiser une plante, en fait, à condition d'avoir exactement le même geste, avec la même intensité, au même endroit, régulièrement. Donc, cette histoire de toucher, il faut la tempérer un tout petit peu avec cette idée-là, qu'en fait, dans l'absolu, on pourrait apprivoiser une plante, comme avec le Petit Prince. C'est rigolo, c'est joli, je trouve. Ben bon, c'est un autre sujet, on va dire, mais ce que je voulais vous dire simplement pour conclure, c'est Astigmergie. C'est le nom qu'on a donné, on appelle ça au système d'intelligence partagée. Donc ça va pour les mycéliums de champignons, pour les systèmes racinaires des plantes, mais ça va aussi pour les abeilles et pour les fourmis, par exemple. Le principe, c'est qu'on a un ensemble d'individus qui sont tous égaux, qui ont tous la même capacité, le même pouvoir, la même indépendance. Et qui ont tous un objectif commun. Mais il n'y a pas d'unité centrale de coordination ou de direction. Donc chaque individu peut avoir le comportement qu'il veut pour poursuivre un objectif commun, par exemple. Par exemple, chez les fourmis, c'est chercher à bouffer. Alors je ne sais pas si tu as déjà regardé des fourmis, mais tu regardes une fourmilière, tu as plein de fourmis qui vont prendre un chemin, elles amènent un truc dans un sens, elles reviennent à vide. Jusque-là, on comprend quoi. Mais il y en a toujours plein. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là, tu vois ? Ouais. Elle part par là, elle revient, elle porte rien. Et en fait, on s'est rendu compte que dans tous les systèmes stigmergiques, donc mycélium de champignons, racines d'arbres, etc., on a une espèce de constante, c'est qu'on a à peu près 80% des individus qui ont un comportement, entre guillemets, intelligent, c'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, emprunter le chemin le plus court et le plus intelligent pour aller chercher la bouffe là où elle est, et tu en as toujours à peu près 20% qui semblent faire n'importe quoi. Et le système tolère complètement ça. Voilà. Alors tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je vous disais pour l'eau et le tuyau, on met un pot avec 2 sorties là. Je vous disais, on sème un truc, il y en a à peu près 80% qui vont d'un côté, puis les 20% le vont de l'autre, alors qu'il n'y a pas d'eau. Et en fait, on sait maintenant que ces 20% là, c'est ceux-là qui assurent la résilience du système. 80% elle sert à faire vivre le système. Les 20% en question, c'est eux qui assurent la survie du système. Pas la survie immédiate, mais c'est le futur. Parce qu'ils entretiennent l'exploration, l'inventivité, la créativité, nous on dirait la fantaisie, mais c'est eux qui assurent l'avenir du système. Et ce qu'il y a de très étonnant dans ce système-là, c'est qu'on a un comportement intelligent qui naît d'un groupe d'individus sans qu'il y ait aucune recherche de concertation préalable, pas de réunion pour savoir si on est tous d'accord sur le chemin à prendre. Chacun fait ce qu'il veut, comme il pense qu'il faut le faire. Et c'est très drôle de voir que tous les systèmes stigmergiques fonctionnent comme ça. On devrait vraiment s'inspirer de ça.
On peut penser aux artistes aussi.
Ouais, les 20%. Les, comment ça s'appelle, les intermittents.
Vous vous en doutez, la conversation s'est poursuivie pour nous emmener ailleurs, dans les fantastiques méandres des toutes récentes recherches sur la stigmergie, sur la physiologie du végétal et sur la vie des sols, dont on vous parlera peut-être plus longtemps une autre fois. Il nous reste, en attendant, à remercier mille fois Alain Creton d'avoir partagé avec nous l'état actuel des découvertes sur les perceptions végétales, à remercier aussi Agnès, Pierre-Rémy, Sonia, Francky et le chien Luciole d'y avoir prêté oreille, et Marco de nous avoir accueillis dans son si beau jardin de simples. Merci à tous et toutes les amis qui ont permis la rencontre. Cette émission est aussi une manière de partager avec vous un peu plus qu'un herbier. Si vous voulez en savoir plus sur les activités de l'ethnobotaniste Alain Creton, allez visiter son site. Vous y découvrirez ses stages, mais aussi la crème de châtaigne que Marco et lui concoctent avec d'autres, et avec joie, et qu'on trouve à Marseille. Toutes les autres références musicales ou scientifiques sont en ligne sur le site internet de Radio Galère, à la page de l'émission radiogalère.org/émission/dicotylédondes au pluriel. Et vous pouvez aussi nous écrire, nous faire parvenir vos commentaires, vos idées, vos envies. C'est toujours la même adresse, dicoty@etik.com, dicoty@etik.com. Merci à vous et à très vite. Dicotylédondes, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'être resté à l'écoute. Vous pouvez retrouver toutes les émissions et leurs références sur radiogalère.org. Dicotylédondes, c'est tous les quatrièmes mardis du mois de 15h à 16h, en ligne ou sur 88.4.